Foi et turbulence. Un regard contemporain sur les multiples dimensions de la foi. Coordonnateur Louis Le Sage. Aujourd'hui, croire d'hier à demain.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce cinquième volet de la série Foi et turbulence, intitulée Croire d'hier à demain. Mon nom est Francine Robert et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un collègue dominicain, Daniel Cadrin, qui est directeur de l'Institut pastoral et qui enseigne en théologie pastorale surtout, mais aussi en Bible, en foi adulte et andragogie, etc. Daniel a toujours eu un intérêt très marqué pour Mme Simone Veil, qui était une femme très engagée au plan social et politique, au nom de la justice et aussi au nom de sa foi. Simone Veil, qui a vécu l'Europe des années 1930 et 40, donc un contexte assez troublé dans lequel elle a développé une pensée et une spiritualité très originale et forte, de nature à nous inspirer encore aujourd'hui. Et vous verrez, Simone Veil est une femme passionnée dont Daniel parle avec passion. Daniel Cadrin, bonjour et bienvenue à l'émission.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de nous parler de cette grande dame, Simone Veil. Je sais qu'il y a plusieurs chrétiens engagés au niveau social, politique, au nom de la justice, qui sont des figures inspirantes pour vous. Mais je sais aussi que Simone Veil, vous l'aimez particulièrement.
Oui.
Et je me suis posé la question, c'est peut-être personnel, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'elle entre, je dirais, dans votre vie comme ça?
Alors, je fréquente Simone Veil depuis longtemps. Les souvenirs qui me viennent, c'est dans les premières parties des années 60, quand j'étais au collège à Lévis. On lisait Simone Veil, Hernandos Malraux, comme on écoutait Barbara et Ferré. Et ensuite, je me rappelle avoir fait un travail, peut-être en philo, hein, sur le stoïcisme, et j'avais pris comme figure d'un stoïcisme contemporain, lorsqu'il me l'avait fait travailler davantage. Ensuite, quand j'ai fait mes études de théologie, quand j'ai fait ma maîtrise, pour mon mémoire, j'ai travaillé Simone Veil. Et la question qui m'intéressait, c'est quel lien entre un engagement pour transformer la société, un engagement social, politique, de justice, et une expérience spirituelle forte, une foi en Dieu. Et elle était pour moi un témoin privilégié de cette interface profonde entre les deux. Et il y a aussi une autre dimension, c'est le lien de Simone Veil aux Dominicains. Moi, je suis Dominicain. Celui qui a été son accompagnateur spirituel, on dirait aujourd'hui, un grand ami, c'était le père Perrin, au début des années 40 à Marseille. Il a eu des contacts avec plusieurs Dominicains, le père Couturier, père Lebray, Jacques Leuve, début des prêtres ouvriers. Et donc, comme Dominicain, il y avait là quelque chose qui me touchait. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer ce père Perrin à quelques reprises, et de parler avec lui, de Simone Veil. Alors ça aussi, ça m'a touché, d'avoir un contact avec quelqu'un qui a été vraiment un témoin très, très proche de son itinéraire spirituel.
Mm-hmm. Alors, ça veut dire que même si vous ne l'avez jamais rencontré, Daniel a fait un petit peu partie de votre
oui,
vie.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est comme une figure.
Ben alors, ça vous rend d'autant plus intéressant pour en parler. Pouvez-vous nous la situer en plan historique?
Simone Veil a une vie courte, mais très intense. Et sa pensée, tant philosophique et spirituelle, n'est pas détachable de son parcours de vie. Alors, j'en donne quelques éléments clés. Elle naît en 1909 à Paris. C'est une juive, mais qui vient d'un milieu juif qui n'est pas croyant, n'a pas reçu d'éducation religieuse. Milieu bourgeois, libéral, très ouvert, avec beaucoup de contacts. Il y a deux enfants qui sont tous les deux surdoués. Son frère André était un grand mathématicien de génie. Et il y a Simone qui est aussi assez brillante. Alors, une famille où on valorise beaucoup la culture, hein, dans tous les domaines. Et ça on voit que ça l'a marqué. Elle a une santé très fragile, ça va la marquer dans sa vie parce qu'elle va s'engager à fond, elle va se brûler. Mais dès l'enfance, elle est souvent malade. Bon, elle fait des études de philosophie. De métier, c'est une philosophe, hein, et vraiment, avant tout. Et quelqu'un qui va la marquer, c'est Alain.
Philosophe
Alain, propos sur l'éducation. Ça, c'est le mentor, c'est le premier, hein, c'est ce qui va rester beaucoup. Ensuite, elle fait l'école normale supérieure, comme bien des intellectuels français. Elle est vraiment, c'est très typique en un sens, Simone Veil. C'est le milieu intellectuel français des années 30. Hein. C'est le monde de Simone de Beauvoir, de Jean-Paul Sartre, de Georges Bataille. Et tous ces gens-là, c'est un peu sa génération, c'est son univers. Hein. En termes d'univers culturel, si je dirais. Mmh. Elle fait l'école normale supérieure et elle fait sa thèse sur Descartes, science et perception chez Descartes. Par ailleurs, dès la fin de son adolescence, c'est une militante politique. Et elle le sera toute sa vie, au fond. Tu ne peux pas penser quelque chose sans essayer de le mettre en œuvre dans l'action. Ce n'est pas séparable. Alors, c'est une militante de gauche, d'extrême gauche, on dirait aujourd'hui. Elle a d'abord été une militante plutôt pacifiste, là, la fin de son adolescence, comme toute la gauche l'était à l'époque. Et ensuite, bon, elle va se lier vraiment à ce qu'on appelle la gauche anarchiste, syndicale, révolutionnaire, qui est une gauche anti-stalinienne, anticommuniste, au sens du communiste stalinien, mais bien, beaucoup de ses amis, c'est les communistes, mais qui se situent dans une autre ligne. Et elle va militer. Elle sera dans les manifs, elle va être liée à des groupes syndicaux, elle va beaucoup écrire aussi là-dessus. Après ses études de philo, elle enseigne. Elle est prof de philosophie dans des lycées. On a les témoignages de ses élèves. J'ai très aimé comme prof. Et on a même publié ses cours. Il y en a qui notaient ses cours. Mais en même temps, c'est une militante. Hein? Elle est très liée aux mouvements syndicaux qu'il y a dans la ville, aux grèves, aux groupes ouvriers. Elle est liée à ses réseaux, hein, engagée à fond là-dedans. Alors, elle a du trouble à chaque endroit où l'enseigner, elle a eu des remerciés, elle a eu des problèmes de sa militance politique. Ben, il n'est pas facile, là, c'est une dérangeante. Et ensuite, des problèmes de santé aussi, réguliers, à un moment donné. Bon. Donc, jusqu'à 38, c'est sa vie. En 1936, elle ira aussi en Espagne, à cause de la guerre civile en Espagne. Mm-hmm. Même si elle est pacifiste, elle s'est dit, bon, je ne peux pas rester là, attendre, il faut que je fasse quelque chose.
Peut-être rappeler, Daniel, que c'est à cause d'une élection d'un gouvernement de gauche.
La guerre civile d'Espagne a été quelque chose de terrible, hein, entre les républicains, la gauche et Franco. Une guerre qui a fait 1 million de morts. Il y a eu beaucoup de mobilisation pour aller soutenir la République. Comme c'est une femme qui est de cette mouvance politique, elle y va. Et ça va la marquer profondément. Parce qu'elle va voir l'horreur et elle entendra parler de l'horreur des deux côtés. Après ça, il faut dire, il n'y a pas des bons, des méchants. On tue, on massacre de chaque côté.
La violence.
Extrême. Ça va la marquer beaucoup. Et il y aura eu, en 34-35, une autre expérience absolument fondamentale qui va la marquer, la briser et en même temps l'aider à devenir ce qu'elle était. Ce sera son expérience en usine. Elle est engagée du côté des ouvriers, dans la militance de gauche, mais bon, c'est beau tout ça, mais qu'est-ce que c'est la condition ouvrière? Pour la connaître, il faut être sur le terrain. C'est toujours la même idée. Hein? En pratique, être là. Elle va aller travailler en usine, des stages, on dirait. Et à l'époque, ça se faisait pas. Les gens de son milieu intellectuel, les produits de l'école normale, même les militants de la gauche révolutionnaire, tu milites, tu fais des réunions, mais tu ne vas pas travailler en usine.
Tu as des ouvriers, mais tu ne deviens pas ouvrier.
Alors, elle devient ouvrière, d'abord chez Alstom, ensuite chez Renault. C'est des grandes usines, alors c'est vraiment le grand système. Elle n'a pas la santé pour ça, c'est putain, ni la préparation physique. Ça va physiquement la briser beaucoup. Hein. Mais en même temps, dans son corps va entrer l'expérience ouvrière de l'oppression, de l'aliénation. Et il y a chez elle une part bon, de volonté d'être avec, de solidarité. Et ça a été très souligné. Mais il y a d'autres aspects qui, à mon avis, sont aussi importants. Être en usine pour voir comment l'usine fonctionne, comment est organisé le pouvoir dans l'usine, quel est le type de technologie qu'on a, quels sont les effets de la technologie sur les ouvriers. Ça va marquer beaucoup sa réflexion. Parce qu'elle va dire, bon, dans la gauche, bon, le capitalisme, puis le socialisme, on peut faire tout ça, toutes les révolutions. L'aliénation et l'oppression va demeurer tant que la technologie ne changera pas et tant que le système de pouvoir dans les usines ne changera pas. Il avait parfaitement raison, mais à l'époque, c'était un peu innovateur. Ça.
Tout était réduit à une lutte des classes.
Oui, on peut changer le pouvoir, mais l'ouvrier va se retrouver avec le même patron, le même fonctionnement syndical et avec la même technologie qui en fait un objet. Elle va publier aussi donc des analyses à partir de son expérience ouvrière. Ça nous mène tout ça jusqu'en 1938, à peu près. Et là, peut-être que je reviendrai plus tard sur son expérience religieuse. ça va se développer à travers ça. Il va se produire ensuite comme événement la Deuxième Guerre mondiale, qu'elle a annoncé très bien. Elle était allée, déjà au début des années 30, elle est allée en Allemagne. Le nazisme commençait à monter. Tout de suite, elle l'a vu, hein. Hitler est plein pouvoir, hein. Qu'est-ce que ça annonce? Les massacres organisés. La suppression de la liberté, la suppression de la culture. Il y aura le Front populaire aussi en 1936. C'est la victoire de la gauche en France. Elle s'en réjouit, mais elle dit, voici, toc, 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 ça ne durera pas. Bon. Elle est une analyse politique très dure, implacable, mais très juste. C'est le philosophe Michel Serres qui disait, avec Simone Veil, quand elle analyse comme ça, c'est jamais trompé.
Mm-hmm. Les événements lui ont toujours donné raison.
C'est ça. Ensuite, bon, il y aura la Deuxième Guerre mondiale. Bon, alors, c'est les Juifs, sa famille s'enfuit, il quitte Paris, il se retrouve à Marseille. Et là, à Marseille, bon, c'est toujours la même Simone Veil, alors elle lit, elle dévore des livres, elle écrit, sa production intellectuelle est incroyable. Elle a un très grand réseau d'amis aussi, tout le temps, beaucoup, beaucoup de contacts. Et là, elle veut faire une autre expérience, elle veut faire le travail agricole. Qu'est-ce que c'est, le monde paysan, c'est une fille de la ville. Et là, quelqu'un la met en contact avec Gustave Thibon, philosophe français, plutôt de droite, catho, vraiment pas son monde, mais qui va très bien la saisir. Et là, elle va travailler dans les champs. Et c'est là aussi qu'elle rencontre le père Perrin et qu'elle s'engage dans la résistance française. Le père Perrin est très engagé, c'est un héros de la résistance, hein, entre autres pour aider les Juifs. Et il a été fait par Israël juste des nations, vraiment très engagé. Alors, Simone Veil le connaît, c'est avec lui qu'elle discute là, des arts. Elle s'interroge sur l'Église, le christianisme, tout ça, la Bible, bon. Mais qu'elle s'engage aussi dans la résistance, déjà, passer des papiers, enfin. Elle distribue les cahiers Témoignages chrétiens, qui est une espèce de revue chrétienne de gauche à l'époque, anti-nazi. Bon, finalement, elle, son goût, c'est de rejoindre les forces de la résistance française de Gaulle, qui est à Londres. Mais de toute façon, toute sa famille s'en va à New York, aux États-Unis. Elle, c'est un lieu de passage, c'est pour s'en aller à Londres. Elle est à New York, elle visite Harlem, bon, et ensuite elle rejoint Londres. Et à Londres, bon, elle est engagée par la résistance française, mais qu'est-ce qu'on fait d'une intellectuelle originale, extravagante comme elle? On lui confie des analyses, des préparations de textes, c'est ce qui va l'amener à écrire L'Enracinement, qui est peut-être son œuvre majeure, et des avis sur déclaration des droits de la personne. Mais au fond, de Gaulle, elle trouve un peu folle, c'est pas quoi faire avec. Par ailleurs, elle a écrit un mémo à un moment donné, il faut former un Conseil suprême de la révolte. De Gaulle va servir de ça pour mettre sur pied le Conseil national de la résistance. Mm-hmm. Quand même, certaines idées ont été reprises. Et ce qu'elle travaille à ce moment-là, c'est 1943, c'est l'après-guerre. Comment reconstruire la France et l'Europe après la défaite des nazis. C'est intéressant, comme elle dit, on peut prévoir l'américanisation de l'Europe et la perte du passé, de l'héritage culturel, et suivra l'américanisation du monde.
À prévoir ça, Daniel.
C'est écrit tel quel. Oui.
C'est vraiment une visionnaire.
Ouais, hein? Une analyse, là, elle saisit très bien les choses. Et ensuite, bon, elle est épuisée. Elle ne s'occupe pas beaucoup de sa santé, c'est évident. Elle attrape la tuberculose. Au printemps 43, elle doit être hospitalisée. Elle est au bout de sa route. Hein. Elle écrit ça quand même. Elle écrit jusqu'à la fin. La production intellectuelle demeure. Et finalement, on la rentre dans un sanatorium au mois d'août 43 et elle décède assez vite. Elle est enterrée en Angleterre, au cimetière d'Ashford, dans la section catholique. Ça, je reviendrai là-dessus.
Eh bien, c'est...
Bon,
c'est...
ça, c'est le parcours de vie.
Mais on voit que dans cette vie-là, il y a des situations, un contexte qu'elle ne choisit pas. Puis en même temps, une sorte de constance dans des attitudes.
Oui.
Et vous nous dites, tout ça a beaucoup marqué sa pensée. Si vous nous donniez, disons, deux ou trois éléments principaux que vous allez développer pour nous après la pause...
Son regard sur la vie politique montre que l'être humain cherche la justice, mais est soumis à la force et à la violence. Pour elle, il n'y a pas de résolution de ça. Et elle va reprendre cela pour l'approfondir dans qu'est-ce que ça dit de l'être humain au plan anthropologique et qu'est-ce que ça dit sur Dieu.
Elle va lier cette question-là de la violence à
sa
réflexion sur Dieu.
Ouais.
Est-ce que, Daniel, vous pourriez nous lire un petit bout de ses écrits?
Sur le lien peut-être entre ce qui se passe dans la société et la quête de Dieu. La valeur d'une forme de vie religieuse, ou plus généralement spirituelle, s'apprécie par l'éclairement projeté sur les choses d'ici-bas. Les choses charnelles sont le critérium des choses spirituelles. Ce n'est pas par la manière dont un homme parle de Dieu, mais par la manière dont il parle des choses terrestres, qu'on peut le mieux discerner si son âme a séjourné dans le feu de l'amour de Dieu. Là, nul déguisement n'est possible.
Vous écoutez Foi et Turbulence. Aujourd'hui, croire d'hier à demain.
Je suis toujours en compagnie de mon collègue Daniel Cadrin, dominicain, et nous parlons de la grande Simone Veil. Elle a vécu des choses dures. Elle a beaucoup réfléchi, j'ai vu dans vos articles, sur le problème de la force et la question de la justice.
La force est une notion clé chez elle. C'est une militante politique, donc... Elle regarde le monde du pouvoir politique, le monde international aussi. Elle est très sensible à la question du colonialisme, une des très rares à l'époque dans la gauche. Elle regarde le monde du travail, bon, le travail en usine, l'organisation du travail, les syndicats. Et elle essaie, comme philosophe, au sens de voir, plus qu'une analyse purement sociologique, qu'est-ce qui est en jeu là-dedans. Foncièrement, philosophiquement, Simone Veil est grecque. Hein, son fond, c'est la Grèce. Métissée avec Marx. Alors, le monde est fait de la lutte des classes, et plus foncièrement, la lutte entre le désir humain de justice et la force qui opprime l'être humain et qui opprime les sociétés. Et la force, c'est, comme elle va dire, ultimement, c'est le pouvoir. Hein? Le pouvoir qui est une illusion, mais qui est une illusion terrible parce qu'elle tue, elle écrase les gens. Et c'est ce qui domine tous les rapports sociaux. La lutte des faibles contre les forts ne peut pas être arrêtée. Elle durera toujours. Parce que si on gagne, les faibles deviendront des forts et écraseront les autres. La lutte est constitutive de la condition humaine et de la quête de justice. Bon. Mm-hmm. Elle serait très à l'aise, Simone, avec les groupes d'indignés, tout ça, là.
Oui, c'est ce que je pense.
Les manifs, tout à fait jeune, j'imagine très bien dans ce monde-là, puis elle serait là. Son analyse politico-philosophique est dure, hein. C'est pas un optimiste du tout. Mais elle voit pas de résolution, il y en a pas. Donc, il faut se battre.
À vous entendre, on pourrait dire que c'est la force et le pouvoir dans les systèmes. Mais ce que j'ai découvert dans vos articles, c'est qu'elle réfléchit sur l'être humain.
Il y a une anthropologie derrière. Je pense que sa démarche est faite comme ça. D'abord, un engagement politique, une analyse politique, et comme éthicienne, chercher en profondeur, mais pourquoi c'est comme ça? Ça l'amène à mettre en place une anthropologie, j'appelle ça ainsi, une vision de l'être humain et de la condition humaine, qui est tragique elle aussi, où l'être humain... Profondément, il est fait pour le bonheur, il veut l'amour, la paix, la justice, mais il détruit, il écrase, il opprime. Ou bien, il est une victime innocente. Alors, là, on va mettre en place plusieurs choses autour de ces réalités. Chez elle, il y a une notion clé qui est la décréation. L'opposition, c'est pas entre l'âme et le corps, il n'est pas gnostique, contrairement à ce qu'on a dit. Mm-hmm. L'opposition est entre l'être humain et ce qu'elle appelle le moi ou l'imaginaire en l'être humain.
Donc, l'opposition est dans l'être humain.
Et dans l'être humain lui-même.
Dans chacun.
La contradiction est en nous. Hein. Et nous avons à lutter en nous, et ça, c'est un peu une expérience spirituelle, ultimement, et intellectuelle, tout autant, pour que le moi ne prenne pas toute la place. Donc, pour que je me décentre de mon moi. Mon moi veut dominer, contrôler. Mon moi est illimité. Il ne met aucune limite. L'univers est infini. Alors que pour elle, l'univers, c'est une finitude radicale. L'être humain, l'univers est fini. Sa pensée est intéressante au plan écologique. Elle peut inspirer beaucoup. Hein. Mais on nie tout ça, on vit dans l'irréel, on vit dans l'illusion. Et les autres, ce n'est pas des vrais êtres humains devant nous, c'est des objets. Il n'y a plus de différenciation, il n'y a plus de limite. C'est en nous, c'est le péché, on dirait, ouais. Elle, aujourd'hui. On fuit l'altérité, on fuit la finitude.
On fuit la finitude, ouais. C'est ça, on ouais. rêve qu'elle n'existe
ouais.
pas.
Ouais. À ce moment-là, on domine. Ça se passe en nous, ça se passe dans les relations humaines, mais ça va se passer au plan politique, ça se construit un système odieux, entre autres.
Ça dépasse beaucoup la simple lecture par la lutte des classes.
On est rendu beaucoup plus loin, d'une manière plus intérieure, mais elle va dire, bon, la condition humaine est absurde. Hein? Qui a publié la grande partie des premières œuvres de Simone Veil dans les années 50? C'est Albert Camus,
oui.
qui ne l'a pas connu, mais qui était un très grand admirateur. Et Albert Camus considérait Simone Veil le plus grand esprit de notre temps. Vraiment. Alors, ils l'ont publié beaucoup, et ils ont beaucoup en commun. Une même vision d'une condition humaine absurde. Mais chez Camus, ça l'amène à une position de non-croyance. Chez Simone Veil, ça l'amène à croire en Dieu, puisque l'absurde est la porte vers Dieu pour elle. Notre condition humaine nous mène à ce sens de l'absurde, mais c'est là que Dieu peut être attendu et rencontré. Avant, c'est des idoles pour elle. Alors, elle va dire, comment arrêter cette... C'est une machine chez nous qui écrase. Il y a des voies privilégiées pour ça qu'il faut approfondir. Elle a trois voies. L'expérience du travail, qui pour elle est centrale. On ne peut pas changer la société, ni non plus, au plan spirituel, éviter la question du travail. Ce qu'on aurait aimé le mieux réaliser, comme elle disait, c'était une spiritualité du travail.
Mm-hmm.
Parce que le travail, c'est le contact avec la réalité. Qui passe à travers le corps.
OK, c'est ça. J'essaie de revoir ouais. le lien. Donc, c'est nous guérir de notre espèce d'imaginaire de toute puissance.
Ouais. Le lien avec l'univers et avec les autres, dans le compagnonnage, dans la solidarité.
Ouais.
Alors, le travail est central. On l'a réduit à une activité pour gagner de l'argent. Mm. Le travail est beau. En même temps, il est dur. Mais ouais. c'est comme ça qu'on accède au vrai.
OK. T'sais.
Le travail va être important. Donc, l'autre, c'est l'expérience de la beauté.
La beauté.
C'est moins souligné chez Simone Veil, parce qu'on remarque plutôt son pessimisme ou sa vision tragique, mais la voie de la beauté est là, très présente chez elle. L'esthétique est très importante. Elle aimait beaucoup toutes les œuvres d'art, elle s'y intéressait. Elle va développer une spiritualité esthétique où le Christ est comme créateur, logos, hein, est source de la beauté du monde, et dans toute beauté cosmique ou d'œuvre d'art, c'est le visage du Christ qui me sourit. Il y a des choses extraordinaires sur la beauté. C'est magnifique. Hein?
Oui. Parce que, comme voie, donc, encore là, pour échapper à mon imaginaire de pouvoir, parce que la beauté me décentre
Exactement.
De moi, c'est ça?
Et okay. la beauté, comme le malheur, comme le travail, me font sortir de ma prison intérieure et me font entrer dans l'univers du réel. L'univers matériel,
oui.
sa force, sa beauté, son danger, et l'autre, oui. les autres êtres humains, l'altérité.
Il y a de l'altérité, c'est ça.
Une altérité profonde.
OK.
Et l'autre expérience, c'est
oui.
le malheur.
Le malheur.
Le malheur, ça arrive, t'as pas de contrôle là-dessus.
La souffrance, donc.
Non. Le malheur inclut la souffrance, mais il est beaucoup plus que la souffrance. Elle dit, bon, il y a des gens opprimés, pourquoi il y a d'autres qui les oppriment? Ça, je le vois. Le malheur, c'est une souffrance qui n'a aucune justification. Il y a des victimes innocentes. C'est absurde. Bon, elle dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La valeur des innocents, la souffrance des enfants, mais pas juste une souffrance, quelque chose qui a...
La maladie.
Aucune explication. Alors ça peut mener plutôt au désespoir, normalement. Mm-hmm. Mais pour elle, là aussi, c'est une expérience qui fait le nettoyage de toutes tes idoles, de toutes tes illusions, et en même temps qui est très douloureuse, et où la compassion face au malheur d'autrui. La solidarité avec ceux qui vivent le malheur.
Donc, ça fait entrer le malheur
fait entrer,
que tu vis, fait entrer l'autre.
Fait entrer, fait découvrir que l'univers est soumis aux lois de la nécessité. C'est ce qui permet d'ouvrir le cœur, on pourrait dire, tout simplement. En même temps, tu ne souhaites pas le malheur, il arrive. Et pour elle, le symbole de ça, qu'est-ce que c'est? T'imagines la croix du Christ.
Bon. Mm-hmm.
Ensuite, il y a la dimension carrément religieuse chez Simone Veil,
ouais.
Qui est liée à tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, qui en est un développement, une interaction avec cela. Simone Veil, bon, sa pensée, je dirais, religieuse, elle a beaucoup écrit, des livres et des livres qui touchent la question de Dieu, et la question de la religieuse, c'est plus à partir des années 38. Hein. C'est comme un approfondissement, je dirais, de son engagement politique et philosophique, éthique. On va encore plus loin, et des différentes circonstances de la vie. Et sa réflexion sur le malheur, sur tout ça, là, tout ça est là. Alors, Elle va dire elle-même, bon, jeune, la question de Dieu ne se posait pas, c'est une incroyante, comme lui, tout le monde de son milieu, hein, son milieu intellectuel, etc., et militant. Bon. Ça sera d'abord une réflexion très personnelle qu'elle va faire. Beaucoup de gens, après sa mort, seront très surpris de voir tous ces livres qui parlent de Dieu. C'est quelque chose qu'elle parlait qu'avec des proches et des intimes.
Oui.
Ou sa réflexion, ou ses carnets. Il y aura des événements qui vont faire en sorte qu'elle va poursuivre cette réflexion religieuse, plusieurs. Une, c'est une expérience à Assise. Vous avez eu en Italie quelquefois. Assise, pour dire c'est magique, quand je suis allé moi-même. Et dans l'église, Santa Maria degli Angeli, elle dit c'est pour la première fois de sa vie, elle va se mettre à genoux. Elle n'a jamais prié de sa vie. Elle ne priera pas, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est comme une expérience transcendante, on dirait qu'il la dépasse. Ensuite, un jour, elle va aller à Solesmes, à l'abbaye, pour les jours saints. Alors, c'est la liturgie grégorienne. Elle, qui est très sensible à la beauté, elle va être très touchée par ça. Il y aura des expériences comme ça, qui vont ouvrir en elle une expérience mystique, on dirait. Ensuite, il y a des contacts aussi qu'elle aura. Parmi ses amis, il y a des gens qui sont devenus chrétiens aussi. Et il y aura ensuite sa rencontre avec les religions orientales, entre autres l'hindouisme, par son frère, entre autres. Son frère André Veil, le mathématicien, va se retrouver aux Indes pour enseigner. En tout cas, ils vont discuter et elle va se mettre à lire la Bhagavad Gita, les Upanishads, les écrits sacrés de l'hindouisme.
C'est vraiment un esprit polyvalent.
Ouais, elle va s'y intéresser suffisamment pour apprendre le sanskrit. Elle lit les textes dans le sanskrit. Hein, ça, c'est un intellectuel de ce genre. Tu lis pas ça dans les traductions. Elle va faire d'ailleurs sa propre traduction de la Bhagavad Gita. On dit qu'elle est excellente.
Eh ben.
Ça, c'est en passant. Je dis, quand est-ce qu'elle faisait ça? Je sais pas. Et elle va là développer tout un réseau de relations avec des gens qui s'intéressent à l'hindouisme ou aux religions orientales. Elle deviendra mieux que Landa del Basto. Bon. Il y a d'autres réseaux qu'elle va connaître que ceux de la gauche que j'avais connus. Et en même temps, elle lit les évangiles. Alors, il y a tout ça fait comment dire, se pose clairement la question de Dieu, ce qui ne s'était pas posé. Et plus que ça, elle va dire ce qui est impossible m'est arrivé. Parce que le surnaturel, par définition, ça n'existe pas, si tu veux, c'est impossible.
Ouais.
Et là, elle va dire, exactement comme saint Paul, « Christ est venu et m'a prise ». Et là, elle a des espèces d'expériences, de lumière, de rencontre du Christ, qu'elle exprimait plutôt dans ses poèmes. Alors, c'est plutôt embêtant pour elle, parce que dans tout son système, ça n'existe pas.
Il n'y a pas de place.
Mais c'est réel. Ça, c'est Dieu. Impossible, mais réel.
Comment?
L'impossible, mais réel. C'est Dieu. Elle va développer là-dessus. Alors, elle a tout ça qu'elle vit, qu'elle partage avec quelques amis, et c'est là que, quand elle se retrouve à Marseille, en 1940, elle va rencontrer Père Perrin. Elle a besoin d'un interlocuteur. Ben, pleine de questions. Dieu, le Christ, la Bible, l'Église, le baptême, qu'est-ce que je fais avec... Elle n'a pas de bagage dans ce domaine-là, sauf le bagage culturel d'une philosophe, puis d'une française, bon, de littérature, mais... C'est un monde étranger.
Puis c'est sûrement pas avec son bagage qu'elle va être entrée spontanément dans une institution comme l'Église années 30-40.
Ce qu'elle va refuser. Ouais. Et ensuite, la première fois de sa vie qu'elle est allée dans une synagogue, c'est à New York. Et pas dans les synagogues habituelles, dans la synagogue d'Harlem, la synagogue noire éthiopienne, parce qu'elle s'intéresse aux Noirs. Bon. Puis là, elle a toutes ces questions. Et le père Perrin va dire c'est pas facile. C'est l'argument brillante aussi. Mais heureusement, elle est tombée sur le Père Perrin, qui est un homme extraordinaire, qui est un homme de l'amour de Dieu, l'amour du prochain. C'est un homme très évangélique, qui a été très engagé auprès des pauvres, très engagé avec les laïcs, très engagé, comme je disais aussi, pour aider le monde juif, et très ouvert au plan intellectuel. Et elle discute avec lui. Bon, il apporte des éclairages, qui fait ce qu'il peut, bon, il l'a dit lui-même. Et pour lui, elle écrit toute une série de textes, son autobiographie spirituelle, tout ce qui fait l'attente de Dieu, qui sont des textes vraiment majeurs, pour voir clair en elle-même, essayer des idées, se situer. Alors ça, c'est vraiment très précis. C'est là qu'on connaît mieux son parcours spirituel. Ça, c'est dans les années 41, 42, avec Perrin, puis avec d'autres gens qu'elle rencontre. Le Perrin l'a mis en contact aussi avec d'autres chrétiens. Bon, se pose la question de son entrée dans l'Église, et sa réponse est claire, c'est non, pour plusieurs raisons. Elle a une phobie du collectif, un peu, hein? C'est une femme très indépendante de pensée. Elle ne fera pas partie du Parti communiste, elle est vraiment de gauche. Faire partie de l'Église, pour elle, c'est comme entrer dans une patrie. Les nations, elle n'aime pas ça. Parce que tu perds ta liberté. C'est ce qu'elle a vu dans l'Église de l'époque et dans les partis politiques de l'époque. Il n'y a plus de liberté.
Elle les perçoit comme système de pouvoir.
C'est ça. Et tu n'as pas de liberté de pensée. Ensuite, il y a d'autres raisons qui disent qu'elle refuse le baptême. C'est que je ne veux pas me mettre à distance de tout le monde des incroyants et des autres traditions religieuses. Bon. Elle explore beaucoup les autres traditions religieuses qu'elle considère un petit peu comme des Anciens Testaments, comme des annonces du Nouveau Testament. Parfois, ça délire un peu la réflexion là-dessus, ce qui est peut-être plus faible chez elle, mais bon. Mais il y a cette idée que les autres traditions religieuses, il y a les semences de l'Esprit qui sont dedans. Et le Christ y est présent, il faut le trouver. Et donc, elle dit ça, ça passait pas beaucoup à l'époque, ce genre de réflexion.
Non, j'imagine.
Ensuite, elle dit, je veux pas me séparer de toute la classe ouvrière. Elle perçoit l'Église comme plutôt bourgeoise.
Bien sûr.
Ben, ensuite, ce qui est le fond plus profond encore, ma vocation me vient de Dieu et de rester sur le seuil, sur le parvis, pour faire comme le lien entre le monde ouvrier, le monde des incroyants, les autres traditions religieuses et la foi au Christ. Mm-hmm. Même sa vocation dans l'Église est d'être sur le seuil de l'Église. Des choses très belles.
Fait, c'est magnifique. Bon.
Aujourd'hui, c'est très débattu parce que possiblement elle aurait été baptisée. Ça, je reviendrai peut-être à un autre moment là-dessus. Mais donc, elle se situe à distance. Par ailleurs, là, elle fréquente la messe, elle veut dire Jean de la Croix. Elle devient chrétienne plus à fond. Mm-hmm. Mais elle ne veut pas entrer dans l'Église comme telle.
Si, pour nous mettre l'eau à la bouche, Daniel, vous nous donniez une petite idée sur sa perception de Dieu, sa théologie.
Ah oui, ça, c'est très important chez elle, oui. Mm. Pour elle, Dieu est amour, donc Dieu est faible. Il n'y a pas de puissance en Dieu, sauf celle de l'amour. Et elle pousse ça au bout comme peu de gens l'ont fait, à l'extrême.
L'esprit de justice n'est pas autre chose que la fleur suprême et parfaite de la folie d'amour. La folie d'amour fait de la compassion un mobile bien plus puissant que la grandeur, la gloire et même l'honneur, pour toute espèce d'action, y compris le combat. Elle contraint à abandonner toute chose pour la compassion et, comme le dit saint Paul du Christ, à se vider. La folie d'amour fait pénétrer dans un endroit du cœur plus profond que l'indignation et le courage. Dans le lieu où l'indignation et le courage puisent leur vigueur, une tendre compassion pour l'ennemi. C'est vraiment une folie. Elle précipite dans les risques qu'on ne peut pas courir si on a accordé son cœur à quoi que ce soit en ce monde, fût-ce une grande cause, ou une église, ou une patrie. Mais si l'ordre de l'univers est un ordre sage, il doit y avoir quelquefois des moments où, du point de vue de la raison terrestre, la folie d'amour seule est raisonnable.
Daniel Cadrin, dans le texte de Simone Veil que nous avons entendu, il est question de la folie d'amour. Elle est présentée du point de vue de l'être humain comme une option à vivre. La folie d'amour est aussi un trait de Dieu pour Simone Veil.
Alors, la façon que Simone Veil de voir Dieu, je disais Dieu est amour, et Dieu se révèle dans la croix du Christ, c'est foncier chez elle. Son regard sur la vie en société, sur la culture, le travail, montre l'oppression, l'aliénation, la puissance de la force qui écrase les humains. Alors, si Dieu est Dieu, Dieu est bien. Là-dessus, c'est très platonicien aussi. Dieu est bon aussi. Ça, c'est l'Évangile. Dieu ne peut être d'aucune manière lié à la force et à la violence. Alors, qui est Dieu? Et alors, toute la pensée de Simone Veil, sa théologie, entre guillemets, c'est comme elle dit elle-même, comment penser ensemble le malheur des hommes et la bonté de Dieu. C'est Job. Et elle va le faire en développant une vision de la création et de la rédemption qui est assez particulière et qu'elle va reprendre dans son anthropologie. La création de Dieu qui est une œuvre d'amour. Alors, c'est une œuvre de renoncement chez Dieu. Dieu renonce à être puissant.
À être tout.
Mais... Dieu renonce à être tout et à dominer partout où il en a le pouvoir. Pour que l'autre existe, Dieu par amour... Dans la création elle-même, ce sacrifice, si on peut dire, il y a une dimension de renoncement pour que l'autre existe.
Pour faire de la place à l'autre, oui.
Tout à l'heure, je parlais de décréation. Elle reprend ça pour l'être humain. Enfin, tout ça est lié. L'être humain qui aime pour que l'autre existe, doit tuer le moi, laisser place. Il y a une part de renoncement dans l'amour.
Oui, renoncer
pour
à
que
être
l'autre... tout. Oui, c'est ça. Je ne peux pas être tout. Alors, Dieu, oui. Il y a du Spinoza, du Kant là-dedans. Je veux dire, c'est très... C'est un monde philosophique aussi, les Grecs. Alors donc, Dieu aime comme une émeraude est verte. Dieu est pur amour. Il ne peut donc être d'aucune manière lié à toute forme de violence. Et la parole ultime de Dieu, c'est son silence. Et le silence ultime de Dieu, c'est le Christ en croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pour elle, ce qui est fondamental dans le christianisme, c'est l'incarnation du Christ et la kénose du Christ. Il s'est vidé de sa divinité, c'est la croix. Bon, et la compassion du Christ pour toute personne faible et en souffrance. Mm-hmm. Ça, c'est le cœur du christianisme. C'est Jésus qui révèle Dieu, Jésus en croix. Donc, Dieu est pur amour, sans puissance, faible. Elle a un très beau texte. Le visage de Dieu sur terre, où est-il? Bon, il est dans la beauté, oui. Qu'est-ce qui dit mieux le visage de Dieu? C'est le mendiant. Dieu est un mendiant. Il est parmi nous. Il attend que nous lui portions attention, la notion d'attention chez elle. Donc, il ne s'impose pas. Il n'égrasse pas. Il est là. Et nous avons à le reconnaître. Là, c'est toute la démarche spirituelle. À lui porter attention, à découvrir qu'il existe, bon, et entrer en relation. Alors, c'est une image de Dieu qui est proche d'aujourd'hui, je dirais, de Zundel, par
exemple. De Zundel, oui. Et particulièrement, si vous me permettez, de l'évangile de Marc oui, et de la théologie de Paul.
Très proche de Saint-Paul, c'est très clair. Oui. Ça, c'est central dans sa vision de Dieu. Donc, il y a un Dieu qu'elle refuse, il y a des images de Dieu qu'elle refuse. C'est l'autre face, les idoles. Le premier commandement, tu ne feras pas d'idole, tu n'auras que Dieu. Alors, là-dessus, elle est demeurée profondément juive, hein, comme les prophètes. Alors, les idoles, c'est tout ce qu'on appelle Dieu, mais qui est un visage de la force, de la violence, de la puissance, de la domination. Que ce soit religieux ou non, que ça peut être athée, le stalinisme, comme le nazisme, ce sont devenus des systèmes religieux, au fond.
Oui, bien sûr, tu ne pouvais pas penser autrement, il n'y a pas de place pour...
C'est l'État ou c'est la nation. Bon. Donc, l'idolâtrie pourrait être présente partout. Et
y compris dans les images de Dieu.
Alors, les images de Dieu, qu'elle va beaucoup critiquer, c'est le Dieu empereur. Surtout, elle va dire, le christianisme, trop vite, c'est lié à l'Empire romain. Pour elle, l'Empire romain, là-dessus, elle est de l'Apocalypse. C'est la bête, c'est le mal. C'est son prototype du mal, hein, c'est l'Empire romain. Elle déteste les Romains, autant elle aime les Grecs. Elle est très injuste, souvent.
Oui, parce qu'il y a eu l'Empire grec avant.
Mais quand même, ça fait partie. Là, donc, le Dieu empereur, il pourrait souvent sous Dieu, ce qu'on adorait, c'est pas le Dieu de Jésus, c'est une espèce de Dieu empereur là, qui domine, qui contrôle, qui fait peur, qui juge.
Bon, l'incarnation même de la force à laquelle on rêve, nous autres.
Oui. Où est-ce qu'elle a critiqué aussi le Dieu provident, une certaine vision de la providence, où Dieu agit à notre place, arrange des choses magiquement, ça ne peut pas être Dieu. Dieu nous a créés libres et nous laisse à notre liberté. Et là, ces textes sur l'absence de Dieu... Dieu est plus présent dans l'absence que dans la présence, parce qu'il est omniprésent, ça serait plus Dieu, on serait plus là. C'est un peu complexe, c'est le jeu là-dessus. Et elle va dire, l'athéisme peut être purificateur, nettoyer de nos idoles, de nos fausses images de Dieu, et des spiritualités qui ensuite ne sont que des façons de camoufler l'idolâtrie, qui peuvent l'être aussi.
Donc, on peut être idolâtre catholique, bouddhiste, athée.
Tout à fait.
Absolument.
Oui, et comme elle dit, ce très beau texte, l'être humain est fait pour adorer, ultimement, il est fait pour Dieu. Alors, nous adorons. Alors, ou bien on dit on adore une idole, ou on refuse les idoles, quel que soit leur visage, et on attend, en raison d'attente de Dieu. Simone Veil ne dit pas qu'on cherche Dieu. Ça, c'est intéressant.
Bon?
C'est Dieu qui nous cherche. Nous, on n'est pas là. T'sais. Dieu, c'est le mendiant, il nous cherche.
Okay.
Alors, il faut, à un moment donné, aller au rendez-vous. Et ensuite, elle a un très beau poème sur la porte. Elle reprend cette image-là à quelques reprises. Elle va dire, l'absurde nous mène au surnaturel. C'est la porte. Mais je ne peux que frapper à la porte. Ensuite, c'est Dieu qui ouvre. On a son Nouveau Testament à noter que sa famille, ensuite, sa mère avait laissé au Père Perrin. Le Nouveau Testament, évidemment, c'est en grec, ça, c'est... Elle travaillait toujours avec le texte grec. Et elle priait le Notre Père régulièrement. C'était très important pour elle, toujours en grec. Bon. Donc, sa vision, Dieu est Père, dans le sens de toute bonté. C'est le Père de Jésus. Hein. C'est pas une théologienne, pas de formation dans ça aussi, mais de sa réflexion, on peut tirer des pistes théologiques. Et un certain nombre de gens l'ont fait. Il y a même un livre qui est sorti qui compare Simone Veil et Gustavo Gutiérrez, Théologie de Libération. Bon, en même temps, elle a un fond marxiste, mais en même temps, elle refuse des éléments centraux du marxisme. Hein. Toute eschatologie est refusée chez elle.
Donc, pas de grand soir.
On s'en va nulle part. L'histoire n'a aucune finalité. C'est absurde. Alors, ça s'en va nulle part. Et il faut l'accepter pour elle. Elle ne dit pas qu'il n'y aura pas, finalement, au bout de tout, la vie éternelle. Elle ne nie pas. Mais elle dit qu'il ne faut pas trop se lancer vite là-dedans.
Il faut pas que ça redevienne une nouvelle idole, cette affaire-là. Hein?
Alors, Dieu est une lumière, il n'est pas une consolation. Alors, il faut rester ouvert dans l'attente. Enfin, là, c'est Dieu qui vient. Son côté mystique qui a surpris, choqué bien des gens, parce qu'ils disent qu'elle n'est pas orthodoxe, tout à fait. Elle n'est pas orthodoxe nulle part, hein, ni comme marxiste, ni comme femme engagée politiquement, encore moins comme juive, ni comme chrétienne. Je veux dire, elle fatigue tout le monde. Et c'est son côté intéressant.
Ça doit être pour ça qu'elle vous intéresse, c'est ce que j'allais dire.
Mais, alors, la question de Dieu, c'est là qu'on touche à la question du judaïsme aussi.
OK.
Bon. Parce que, bon, Simone Veil, le grand reproche qu'on lui fait, c'est d'avoir rejeté l'Ancien Testament, d'avoir rejeté sa judaïté en plein moment de la Shoah, de l'Holocauste.
Bon. OK. Parce que, je le rappelle, elle n'a pas été élevée comme croyante juive. Elle est d'une famille juive agnostique.
Oui, okay. Bon. Alors, ça se joue, elle va dire elle-même, écoutez, elle dit, le judaïsme comme religion, je crois pas. Comme culture, elle dit, moi, je suis une Française. Et une grecque, une Française, elle dit, même l'Ancien Testament, elle n'avait pas lu ça, tu sais. Bon, elle n'a pas été élevée là-dedans. En même temps, on lui dit, tu es juive, donc tu... Ensuite, bon, il y a une position religieuse chez elle. Elle ne rejette pas tout l'Ancien Testament, ça c'est faux, mais elle en rejette une bonne partie, disons, et elle en garde une partie, elle fait ses choix. Son critère est simple, c'est le Dieu de la force ou le Dieu de l'amour, de la faiblesse. C'est le Dieu universel ou le Dieu national.
OK, bien sûr,
ça joue.
Bon. C'est cohérent.
Pour elle, une collectivité ne peut pas être sacrée, c'est l'être humain qui est sacré, c'est l'univers qui est sacré, mais pas une collectivité, un parti, une église, une nation.
Oui. Bon.
Et l'idée de peuple élu, c'est quelque chose qu'elle peut pas, qu'on ne comprend pas du tout.
Et même pour l'église, elle ne voit pas
non,
ça
non,
comme ça.
Non, ça ne marche pas. Dire que l'église est nouveau peuple élu, elle a le même problème. C'est l'idée d'une nation. Une nation sacralisée, ça ne marche pas.
Bon. C'est l'individu, la personne.
La liberté de l'individu. Et ça joue beaucoup. Ensuite, il y a le fait que ce qu'elle lit dans la Bible et qui la révolte, c'est le Dieu des armées, le Dieu national qui conquiert. Bon, il y a une longue histoire, mais elle n'a pas saisi ça. Elle n'a pas rappelé le cours sur l'Ancien Testament à l'Institut pastoral.
Ben oui, c'est ça. J'ai raté entrée. Quelqu'un.
Ben oui. Mais donc, elle refuse ça. Par ailleurs, ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'elle retient, évidemment?
Les prophètes.
Oui, le Deutéro-Isaïe.
Ah oui.
Le plus universel de tous les textes de l'Ancien Testament. Non, très bien vu.
Isaïe 40 à 55 pour les gens.
C'est ça. Les psaumes. Bon. Job, évidemment, bon, une bonne partie de la Genèse. Bon, elle sélectionne. Mais du moment qu'il y a l'image du Dieu puissant, là, elle bloque. Bon.
Alors, elle doit avoir des problèmes avec le credo chrétien aussi, de toute façon.
Mais
je crois en Dieu le Père Tout-Puissant.
Non, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant Créateur. C'est la puissance de la création de l'amour dans la formule ancienne. On a perdu un peu.
On a perdu, Daniel,
c'est
vrai.
Cette sensibilité-là. Par ailleurs, c'est une jeune femme. Elle est morte à 34 ans. Elle n'a pas le temps de...
De tout mourir.
Puis en même temps, elle est engagée, il y a la guerre, elle n'a pas de santé, elle a passé ses nuits à écrire. Les dernières années de sa vie, elle a fait une production intellectuelle incroyable. Elle écrit ses carnets, qui sont des laboratoires de la pensée. Tout ce qui lui vient à l'esprit, elle le pousse à l'extrême pour voir ce que ça donne. Pour ça, elle est difficile à manier. On ne peut pas prendre une phrase juste comme ça. Je veux dire, voici ce qu'elle pense. Deux pages suivantes, elle dit un peu le contraire, elle l'essaie, elle les met ensemble. C'est une intellectuelle un peu spéciale.
Elle fonctionne bien avec le paradoxe aussi.
Ah,
hein,
complètement,
c'est
tout
ça.
Le temps, tout le temps. Toute sa déclaration pour la nouvelle société, hein, tout repose sur des contradictions. Hein. L'ordre, la liberté, les droits, les obligations.
C'est, ça.
Ben, c'est une pensée de la contradiction. Hein. Alors, c'est très cohérent jusqu'au
ça
bout.
Évite des idéologies pures et dures qui enferment la réalité. Dans...
Bon, donc, ce judaïsme, le dit qu'elle-même, elle ne se considère pas juive au plan religieux. L'Ancien Testament ne l'intéresse pas. Elle n'a pas appris l'hébreu, elle l'a lu en français. Elle était même carrément injuste dans plusieurs de ses réflexions là-dessus. Elle ne connaît pas ça. Père Perrin, là-dessus, qui est très engagé du côté des frères judéo-chrétiens pour sauver les juifs, bon, on va lui dire quoi, ça ne marche pas, mais bon.
Ouais.
Par ailleurs, ce qu'on oublie de Simone Veil, dans tout, il y a tellement d'attaques contre elle là-dessus, hein, tout le temps, elle s'est fait attaquer à cause de ça. En 1941, que fait Simone Veil, qui est à Marseille en attente d'aller finalement à New York pour rejoindre la résistance? Elle est engagée dans la résistance française et pour sauver des Juifs, et elle prend des risques. Au même moment, Hannah Arendt, la grande intellectuelle brillante, extraordinaire, juive, est aussi dans le sud de la France. Elle lit Proust. Et ensuite, elle va aller faire sa carrière universitaire aux États-Unis. Voyez ces deux lignes. Simone Veil n'a aucun plan de carrière. Elle vit beaucoup dans l'instant, dans des engagements.
Elle n'est pas à l'aise dans la judaïté comme système de pensée, ni religieux, mais aider...
Aider les Juifs, oui.
Les Juifs en détresse. Donc, c'est ça.
C'est plus sa ligne.
Sa règle de la compassion, elle fonctionne partout et pour tous.
Cette dimension, souvent, elle est même enlevée. J'ai lu des articles, ils ne disent pas du tout ça. Pourquoi? Alors, elle passe un peu à Marseille, puis elle s'en va à New York. Là, il y a quelque chose qui est oblitéré.
Oui.
Bon, son rapport au judaïsme, il est difficile, ça, c'est sûr. On ne peut pas le nier. Carrément, là, il y a des trucs, c'est un petit peu terrible chez elle là-dessus. Mais elle n'est pas antisémite, elle distribue des témoignages chrétiens qui luttent contre l'antisémitisme. Elle les donne, elle prend des risques pour les distribuer. Ce que les autres intellectuels juifs, souvent, ou intellectuels français qui l'ont critiqué...
N'ont pas fait.
Non, n'ont pas fait.
Ouais. Bon. Alors, je vois que vous voulez la défendre,
Daniel. Là-dessus, parce que j'ai eu tellement de choses qui sont inexactes. Bon, ensuite, il y a la question de son baptême, une autre controverse. Plusieurs ne voudraient pas qu'elle soit baptisée, parce que ce n'est pas cohérent avec, au fond, ce qu'elle disait avant. Ensuite, chez les chrétiens, plusieurs catholiques ne veulent pas l'avoir parmi eux. Qu'est-ce qu'on fait avec une espèce de folle radicale comme ça? Et chez les juifs, même si on n'est pas content, elle demeure juive, elle est absolument brillante. On ne veut pas qu'elle aille du côté chrétien. Donc, non, elle n'a pas été baptisée, ça ne se peut pas. Elle n'a pas franchi le seuil. Tu as beaucoup de choses là-dessus. Ensuite, du côté de sa famille aussi, sa mère n'aimait pas trop qu'on dise Simone Veil ses expériences chrétiennes. Et surtout pas qu'on dise qu'elle a été baptisée. Alors, ce qu'on sait, c'est Simone Veil. Durant la dernière année de sa vie, elle a connu à Marseille, ils sont connus à New York. Et en fait, elle travaille à Londres ensemble. C'est la personne la plus proche d'elle, durant toutes ces années-là. Simone Veil, c'est une juive, convertie elle aussi, qui a été baptisée, je ne sais pas exactement, quelques années ou une année avant. Simone Veil, c'est elle qui l'accompagne à la fin de sa vie. Ces derniers mois, Simone Veil a discuté de son baptême. Elle a même rencontré un prêtre, un aumônier des armées françaises, mais ça n'a pas marché avec lui, qui était très irrité par elle. On voit très bien sa critique du christianisme et de l'Église. Bon, ça n'a pas marché. Mais finalement, elle a discuté avec Simone Veil et l'a accepté. Elle a demandé que Simone Veil la baptise. Il a été baptisé donc par cette femme laïque juive à la fin de sa vie. Le dernier mois, ce n'est pas exactement le temps de sa vie. D'ailleurs, elle a été enterrée dans la partie catholique du cimetière, près de Londres, à Ashford. À l'époque, tu sais...
Non, tu n'enterrais pas quelqu'un qui n'était pas baptisé.
Ses funérailles, ça a été très modeste. Quelques amis, dont Maurice Schumann. Maurice Schumann, c'est un politicien français qui était assez important. Grand personnage de la résistance française. C'est le porte-parole de la France libre.
Okay.
C'est lui qu'on entendait à BBC.
Ah oui?
C'est un proche de Gaulle. Il a étudié avec Simone Veil au lycée. Il était des amis de jeunesse et du juif lui-même, qui va s'intéresser au christianisme. Il sera proche des Dominicains, d'ailleurs. Et qui a été baptisé en 42, lui. Et c'est lui qui fera les prières pour...
À la liturgie.
Bon, liturgie, on l'enterre, là. Et c'est lui qui fait les prières. C'est un juif baptisé, lui aussi. Un laïc. Et très peu de monde, seul, inconnu, à l'époque, sauf de ses amis. Ça termine bien sa vie, je dirais. Il y a comme une fidélité à cette espèce de marginale qu'elle a été toute sa vie.
En effet.
Et en même temps, des amis proches, elle a eu un très grand réseau d'amis tout le temps. De toutes les bords, droite, gauche, incroyant. Ça, c'est un aspect d'elle qui est très peu souligné dans la plupart de ses biographies et qui est majeur, à mon avis. Et bon, à l'époque, les gens ne faisaient pas de texto, Twitter, Facebook, mais ils s'écrivaient. Alors, elle a une énorme correspondance qui n'est pas encore toute publiée. Ses œuvres complètes sont en publication, il y a 7-8 livres, mais il y en a encore plusieurs à venir. C'est énorme. Une femme qui est morte jeune... Quand elle travaillait en usine, sa petite santé, quand elle travaillait à Londres, c'est une nuit, elle écrit. Sur la philosophie, sur les Grecs, sur la politique, sur Dieu.
Sur
le travail, elle brasse tout ça. Je comprends qu'elle a 34 ans.
Elle soit brûlée.
Complètement brûlée. Elle était finie.
Daniel, c'est tôt pour conclure, mais il y a une phrase qui m'a frappée que vous avez citée. De Simone Veil, l'individu reste blessé, la société reste déchirée et Dieu crucifié. Bon, c'est une vision difficile de la société, Comment elle trouve la manière de vivre?
Oui, la manière de vivre, la clé, c'est la compassion face à autrui, qui est centrale chez elle et qui se développe dans une réflexion sur ce qu'elle appelle l'attention. Porter attention à l'autre qui est blessé. Porter attention à l'univers, qui est blessé aussi, à la souffrance. Porter attention au milieu. Et la compassion, c'est vraiment le cœur compatissant. C'est Jésus là qui est son inspiration. En même temps qu'elle peut trouver de l'inspiration dans certains éléments d'hindouisme et du bouddhisme. Il y a une compassion, qui est très importante là aussi. On va faire des liens avec cela. Alors, c'est cette compassion qui fait que la vie est vivable, hein, qui fait que je peux être proche de l'autre, que je peux être proche de l'univers aussi. L'univers est toujours présent chez elle, ce qu'on appelle la Terre aujourd'hui, enfin tout ça. Et que je peux être proche aussi des camarades avec qui je suis engagé là, dans différentes luttes de transformation. Et que je suis proche aussi de la compassion pour les cités, hein, pour les milieux humains qui prennent des siècles à se construire, qui sont fragiles, qui sont essentiels et qui peuvent être détruits en quelques années. Compassion pour les cités, vivantes ou mortes. C'est très beau aussi, là.
Oui.
C'est les milieux humains, là.
Oui.
Alors, la compassion, elle s'exerce de plusieurs manières au quotidien. Et ce qu'elle a beaucoup touché, c'était des expériences de rencontre avec des ouvriers ou en Espagne, c'était avec des paysannes. Elle vit cette compassion qui vient la chercher profondément.
Et bon, vous disiez à l'image du Christ, mais dans ce que vous avez dit de Dieu, c'est la compassion même de Dieu qui...
Oui, oui, oui. La compassion de Dieu montrée en Christ sur la croix. Le Christ qui est le silence de Dieu, plus que sa parole. Et compatissant, le Christ qui est la compassion jusqu'à l'extrême, puisqu'il partage notre question « Pourquoi ?» Le sentiment d'être abandonné de Dieu. Mais c'est parce que nous sommes abandonnés de Dieu que Dieu est amour. C'est paradoxal, mais chez Simone Veil, c'est un peu comme ça. Que Dieu est proche de nous dans cet abandon.
Ben oui, vous écriviez vous-même, Simone Veil ne peut penser Dieu qu'aux côtés des victimes.
Oui.
Et donc, la compassion,
oui, c'est ça.
Celle de Dieu aussi. Daniel Cadrin, un immense merci pour ce portrait coloré, vivant, passionné d'une femme que je trouve extraordinaire à vous entendre. Vous allez donner un cours de 15 heures bientôt. Oui. Passion et action, oui. Témoins de justice. Vous allez parler de Simone Veil dans ce cours.
Mais d'autres aussi, de plusieurs autres
vous
témoins.
Vous pouvez nommer quelques-uns.
Dorothée Day, une des femmes extraordinaires du 20e siècle. Elle aussi une incroyante, devenue une militante, devenue une chrétienne très engagée. Bartholomé de Las Casas, grand défenseur des Indiens. Vincent de Paul. Joseph Lebret, un dominicain, mais qui a été marquant pour toute la pensée du développement et de l'engagement pour la justice chez les chrétiens. Et Simone Veil, il y a une connexion avec Lebret. Elle va publier dans l'économie humaniste dans un des premiers numéros.
Alors, c'est des grandes figures donc, que vous allez présenter.
Au lieu de parler de la doctrine sociale de l'Église, je parle de témoins qui la mettent en œuvre.
Magnifique. Daniel, merci beaucoup. Merci encore une fois à Daniel Cadrin qui nous a présenté cette grande dame qu'est Simone Veil, qui reste encore une grande figure stimulante et interpellante pour aujourd'hui. Merci aussi à Mme Sylvie Latreille qui a lu cet extrait d'un texte de Simone Veil. Sur le site de l'Institut de pastoral des Dominicains, vous trouverez un lien vers un article de Daniel Cadrin disponible aussi sur notre site qui comporte une bibliographie exhaustive des diverses publications de Simone Veil. Mon nom est Francine Robert. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette émission « Croire d'hier à demain » produite pour Radio Ville-Marie par l'équipe de l'Institut de pastoral des Dominicains. Restez à l'écoute de Radio Ville-Marie et je vous souhaite une excellente journée.